Les Agités du Mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les Agités du local du mois.
Cette semaine, on part à la découverte d'Equa Cacao, une entreprise basée à Saint-Berthevin et créée par Carlos Pulgarine en 2016. Elle est spécialisée dans la sélection de cacao en Équateur et s'occupe ensuite de sa transformation, de l'importation et de la vente à des chocolatiers et pâtissiers ici en France. Avec une forte dimension équitable et biologique, on va en parler d'ici quelques épisodes, mais tout d'abord on revient sur cette idée qu'a eue Carlos Pulgarine, originaire d'Équateur, qui lui a permis ensuite de créer cette entreprise.
Il y a quelques années, quand même, parle des années 2000, et l'idée est venue quand même de faire un pont, un lien entre mes origines et la France. Entre l'Équateur et la France, je me suis dit à un moment donné, et il faudra trouver un pont qui va permettre de valoriser l'Équateur, et moi-même, et montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pays quand même à la France. Quand je suis arrivé en France, il y a quand même pas mal d'années, je suis arrivé à Noël, en époque festive, donc dans l'ambiance familiale, bon, tout le monde s'approchait un petit peu avec un chocolat. Tu veux un chocolat ? Ouais, mais si. Donc, premier chocolat, mais bon, pour nous, dans la culture équatorienne, le chocolat, c'est une boisson. Une boisson avec de l'eau chaude, on met un peu de chocolat et c'est pour les travaux agricoles ou travail physique qui va amener la force et puis la chaleur. Mais ici en France, c'est un autre histoire. Et j'ai bien vu à cette époque que tout le monde m'insistait à manger du chocolat. Tu veux un autre chocolat ? Je dis non, je viens déjà manger un. Pour moi, c'est largement suffisant. Et je voyais quand même autour de moi que les gens mangeaient beaucoup de chocolat, quoi. Et c'est là que je dis, moi, je connais la production de cacao. À la base, je suis ingénieur agronome, donc j'ai côtoyé pendant quelques années quand même la zone de production, de comment ça se passe là-bas, quoi. Ça, c'était un petit peu mon métier, quand même. Et là, je dis, voilà le pont, quoi. Un jour, je vais amener des cacao, des chocolats, quelque chose comme ça, parce que c'est là qu'est né les petits peps. Alors, c'est vrai qu'à Laval, il y a un acteur qui accompagnait de façon importante le développement des cacao, c'est Idée Sucrée. Je suis allé voir Guillaume et puis il m'a accueilli de grand cœur, parce que c'est un grand monsieur. Hein. Et il m'a ouvert les portes et puis il m'a guidé. Il m'a dit, écoute, j'ai apporté des échantillons, des masses de cacao à l'époque. Et fur et à mesure, des voyages que j'allais voir la famille ou autre, j'amenais un peu de chocolat. J'ai dit, tiens, ça se fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Et à un moment donné, il me dit, il me prend de l'aile, il me dit, écoute, nous, on travaille comme ça, on a besoin de ça, et des fluidités, une présentation de la couverture des chocolats et assez technique. Donc, à moi, par contre, d'aller en Équateur et sourcer. Et Equa Cacao, il fait beaucoup, beaucoup de sourcing au niveau des qualités des fèves, au niveau de transformation, au niveau de cette histoire des chocolats.
Et justement, demain, on fera un focus sur le sourcing, la sélection des fèves de cacao, voire même de la fève, vous l'entendrez. Hit the button, elevator going up, a black leather shoe jams the door before it shuts. Big teeth talking all the way to my floor. I stole my number, I push past him out the door. Don't need the pain that loving brings. Don't want no other man's diamond ring.
C'est la sélection. C'est la sélection des fèves. C'est-à-dire que pour avoir un bon chocolat, à la base, c'est une fève. C'est une fève de cacaoyer tout petite à l'intérieur d'une cabosse. Des cacao, vous allez trouver entre 40 et 60 fèves. Et Équateur, il y a la chance, c'est un pays magnifique quand même, et on a une variété. C'est comme les cépages des vins, vous avez les sauvignons, un cépage typique français qui va donner un cru de vin. Et vous avez le Margaux, des grands châteaux. Mais dans les cacaoyers, c'est la même histoire. Vous avez des crus, des variétés de fèves et des variétés de cacaoyers qui amène des goûts, qui amène des notes, qui amène des sensations et floral, fruitier. On commence à parler les mêmes langages du vin dans les chocolats. Des grands crus, vous avez des années, des productions, des ensoleillements, des terroirs, des façons de culture, tout autour de sa fève. Plus la fève elle est choisie, plus la fève vous allez dans la sélection, et bien votre chocolat, ça va être comme un grand cru du vin. Et ça va être aussi l'intérêt de toute l'affaire, et amener un chocolat déception. Et quand on parle des sourcing, c'est aller chercher la fève. Et ça, c'est mon travail. En cacaoyer, en variété, on travaille la Riva. Et la Riva, c'est une variété d'origine équateur. Il faut savoir qu'il y a plus de 5000 années avant Jésus-Christ, on a trouvé dans des tombeaux Inca ou préhistoriques, on va dire, des molécules de cacao dans des pots, des céramiques au sud de l'équateur. D'où la variété Arriva. Arriva, c'est un nom assez sympa parce qu'on disait on va chercher les cacao où ? On va chercher les cacao Arriva du fleuve, en haut du fleuve. Du coup, il est resté ces nominations de la variété Arriva. J'ai trouvé déjà des 14 sous-variétés d'Arriva, voire même plus, qu'on peut trouver. Hein. Pour tout dire, c'est une histoire de fèves. Vous avez une bonne fève, vous avez un bon chocolat. L'Équateur, c'est petit, c'est 250 000 km². Et après, bon, les producteurs, ils sont connus. Hein. Ils sont là, les coopératives, les associations, les petits producteurs. Mais ce qui nous intéresse, ou ce qui m'intéresse à moi, c'est d'aller voir les planteurs. La petite production. Là, chez nous, on parlait des chakras. Chakra, pour nous, c'est le petit potager. Et dans le petit potager, vous trouvez des cacao, entouré des autres espèces qui font vivre les foyers. Et des herbes médicinales, des bananiers, des cocotiers, des orangers et plein des autres végétaux qui vont être autour des cacao. Cette merveilleuse cacaoyer, il a le pouvoir d'absorber tous ces arômes qui est autour. Et ce qui donne un arôme, il donne des sensations complètement à part.
Après le sourcing, demain on va s'intéresser au processus pour fabriquer du bon chocolat, l'étape suivante. I'm down at the church, singing hymn 23. Sweet salvation from the pain you left me. Pinstripe suit, I still sit in your chair. I say it's taken even though you ain't there. Don't need the pain that loving brings. Don't want no other man's diamond ring. Le parcours de ces fèves jusqu'à leur arrivée chez les chocolatiers français.
La fève, c'est la culture, la récolte, où ce qui va être fermenté, séché. Et vous arrivez à une fève qui, on les voit, elle est assez demandée aujourd'hui par les chocolatiers bean to bar. Bean to bar, c'est de la fève à la tablette. Ce chocolatier, il va acheter de la fève, il va transformer dans son labo. Et là, il va faire sa couverture, il va faire son chocolat à partir de la fève. C'est une mode, on va dire, qui devient de plus en plus assez important. Donc en France, on compte facile une quinzaine de bean to bar qui commencent à travailler de la fève. Donc on est demandé aussi pour sourcer la fève. Parce que vu que nous, on a une fève assez spéciale, donc c'est bien demandé. Donc la transformation, ça se fait à Quito, ça se fait tout en Équateur. L'idée de Quacacao, c'est que la valeur ajoutée il reste dans les pays le plus possible. Donc avec la transformation, effectivement, on fait tourner la machine. Et puis on peut payer aussi correctement nos producteurs. Les gains, ils restent dans le pays. Nous, on amène ces couvertures par bateau. On les met en carton de 12 kilos et puis on l'amène ici qui après, il va être distribué par les différents canaux de commercialisation. Dans les papiers, ça semblait facile, mais il y a beaucoup de métiers à l'intérieur. Logistique, on est bio. La gamme aussi, il est composé de chocolats biologiques, organiques et on cherche aussi à se labelliser équitable parce qu'on travaille directement avec le producteur. Donc, et on paye directement le producteur. C'est ça qui est le pire. C'est le pire façon de dire jusqu'où on va la demande de quoi cacao, mais il faut se labelliser. Il faut savoir qu'il faut quand même un document qui garantit aux consommateurs qu'on est équitable. Donc on est dans une démarche de labellisation, mais il faut faire attention aussi parce que les petits producteurs, pour payer les labels, donner un exemple, vous achetez un canto de cacao au conventionnel, qui n'est pas organique, il y a un prix. Pour devenir bio, vous payez $10 de plus les cantos. Et pour devenir équitable, vous payez $10 de plus. Donc ça fait $20 de plus votre canto. Il faut faire attention parce que les petits producteurs, ils ne sont pas dans la capacité de se payer les labels. puis il faut des gros coopératives, il faut se réagrouper en association pour valider cette histoire de labellisation. C'est une histoire de paperasse, comme beaucoup de choses, c'est un papier. Mais c'est la certification. C'est capital aujourd'hui. Les enjeux de planète, tout court, de l'environnement. On est dans une pandémie, on est dans des situations qui nous amènent quand même à des réflexions qui vont au-delà d'un label. C'est vraiment une notion de faire vivre les petits paysans. Et si on ne paye pas correctement, déjà, la qualité, ça ne va pas être la même. Si vous ne payez pas correctement, il n'y a pas la motivation pour garder la variété. C'est une variété ancienne. On produit entre 10 et 15 quintaux par hectare. Si vous mettez des hybrides ou des autres variétés qui sont plus productives, et pour les producteurs, c'est plus rentable. Mais par contre, en qualité, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire les choix. Soit on paye correctement et on garde la variété, et on garde notre qualité. Je pense que c'est là qu'il faut y aller. Soit on devient un peu tout venant dans le monde des chocolats. Ce n'est pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt.
Ce positionnement volontairement haut de gamme va donc être maintenu. Demain, on s'intéresse à la clientèle d'Equa Cacao, mais aussi à la dimension d'inclusion sociale du projet. Some fool to break it. Don't need the pain the loving brings. Don't want no other man's diamond ring. Don't want no other man's diamond.
Aujourd'hui, on travaille beaucoup en vrac aussi. Tout ce qui c'est vraquerie, et ça se développe pas mal. Il y a une clientèle qui va avec son bocaux, il sort son petit pépite de chocolat, il met dans le bocaux un verre et après il paye le poids, quoi. Pourquoi pas? Mais il y a aussi les foyers qui sont débordés, il n'y a pas le temps, il faut acheter un sachet, puis basta. Et c'est le chocolatier, la clé principale. On a une centaine de clients, des typologies de personnages de chocolaterie. On travaille aussi avec quelques pâtissiers, parce que la diversité d'Équateur, c'est énorme. On peut amener plein de choses, entre autres café, des épices. On commence à travailler la vanille. C'est une belle aventure parce qu'on devient producteur aussi. Et on est déjà producteur de vanille, donc ça, c'est un objectif. Pour être aussi crédible face aux producteurs en Équateur. C'est sympa quand tu es producteur aussi. Et là, on parle égal-égal et on travaille et on devient légitime dans l'affaire. Ça, c'était capital pour Equa Cacao et on arrive. On arrive à ça, à cette légitimité. Au départ de Equa Cacao, d'ailleurs, ma prof de marketing, en France, il m'a dit, t'es sûr de nommer Equa Cacao parce que l'Équateur, il a plein de choses, il a du café, il a plein de choses. À l'époque, moi, je pensais cacao, donc non, si, on va rester Equa Cacao. On a même des fruits déshydratés, on a un catalogue avec 16 produits quand même aujourd'hui, près des productrices. C'est un groupe de femmes qui font les fruits déshydratés, c'est des mères célibataires. Qui sont montés en usine et puis ils essayent d'exporter. Donc on se met en lien avec eux et on essaye de faire équipe. Et je trouve des histoires comme ça, on a un paquet. Hein. Pour donner un exemple, une fois qu'arrive ici les cacao, on travaille avec l'hôpital de Mayenne qui nous aide à emballer notre chocolat. Et on a utilisé une salle, on l'a conditionné, on l'a adapté à des situations. C'est Artikpa qui est venu voir, des charlottes, des gants, des masques. On n'avait pas le Covid, mais on utilisait toute l'équipe pour faire. On a cette notion inclusive de métier aussi. Autour des cacao, il y a plein de choses comme ça.
À l'hôpital, qui est-ce qui travaille sur
c'est les chocolats? C'est des personnes qui sont malades, on va dire. Mais qui sont capables de mettre des chocolats en sachet, par exemple, avec toutes les précautions. Mais c'est de l'insertion, quoi. On a des clients qui sont les ESAT, les ADAP, c'est un client hein, qui travaille avec des gens handicapés qui font des chocolats. Et c'est magique parce qu'ils font des choses extraordinaires. Et qui travaille derrière, c'est des handicapés. Des côtés producteurs, des côtés transformateurs, il y a des histoires qui sont assez passionnantes.
Passionnant, on l'espère, le sera aussi l'épisode de demain où Carlos Pulgarin va comparer ses fèves de cacao au vin. Et c'est très parlant, mais je ne vous en dis pas plus. Comme promis hier, aujourd'hui on va parler de grands crus et d'arômes. comme pour du vin, sauf qu'il s'agit évidemment toujours de cacao.
Il y a des notes et des tendances aussi, c'est comme la mode et la tendance dans les chocolats, dans les goûts. Ils vont chercher des notes florales, des notes des fruits rouges, des notes des noix, des notes des bananes. Banane, ça commence à être un peu plus spécial ou spécifique à la fève et au cacao. Mais des notes florales, c'est l'arriva. Il n'y a que là qu'on peut trouver ça. Des notes florales, des roses, des notes de miel, des notes de bergamote, des citronnées, des choses comme ça. Il y a des régions en Équateur et précises où on va trouver ces cacao. Grâce à son entourage, grâce à son agroécologie qu'il y a autour, tant mieux si on peut l'avoir. Quoi. Après, il faut aller le chercher. Si on ne fait pas attention à la distribution de la richesse qui produit les cacao ou les chocolats, oui, là on aura un peu mal à ça. Parce que les producteurs ils vont dire bah, écoute, c'est plus intéressant de mettre du béton, faire un bâtiment et les louer. Il faut savoir que l'urbanisme, il pousse les sons agricoles. Si ce n'est rien qu'ici, les sons de production des maraîchers, tout ça, chaque fois, il est poussé. Je me rappelle à Saint-Berthevin, à Laval, quand j'y arrivais, j'avais des vaches à côté de moi. Aujourd'hui, on voit la réalité. Ça pousse la frontière agricole. Et en Équateur, c'est pareil. Donc, si on ne paye pas correctement, si on ne motive pas, si on ne fait pas de transformation... Parce que c'est bien beau faire la fève, mais si on peut faire des chocolats en Équateur, faire une tablette en Équateur, avec des qualités, démontrer des choses qu'on peut faire, ça commence à se travailler. On a une association à Manavi, c'est 10 producteurs, on est en train de bricoler des machines, parce que la machine, c'est pas des Suisses, c'est pas des Allemands, c'est pas des Français, c'est des machines équatoriennes pour faire des tablettes de chocolat. C'est pas la tablette comme ici, ok, mais par contre, un arôme, un goût, c'est autre chose, parce qu'il vient d'être récolté, ce cacao, il vient d'être la veille sorti de l'arbre et tout de suite mis à sécher, à fermentation, et après tout de suite travailler. Pour que notre chocolat il arrive, il faut 4 mois quand même de préparation, voire 12 mois de plus d'anticipation. Donc ça fait 6 mois pour que votre chocolat il arrive. Chaque année, votre chocolat, ça va être différent. Même celui-là, vous avez un 70% esmeraldas. On parle d'un chocolat féminin, d'ailleurs, parce que c'est très, très, très puissant en des notes des miels. C'est très, très... Il faut ton, tout ça. Et ça s'anticipe, ça se prévoit. Donc là, il y a 6 mois qu'on a commencé à travailler déjà la transformation, la finesse, etc. Pour revenir donc à la notion d'année ou des crues, c'est que ces mêmes chocolats, les 2020, les 2021, ça va changer déjà un petit peu. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions climatiques, tout simplement. Je sais qu'on a beaucoup d'eau en Équateur, donc ça va changer un petit peu. Ce n'est pas les mêmes vins 2020, 2021, 2022. C'est des crues, hein. C'est pareil. Et des fois, les chocolatiers, ils sont surpris. Ils disent, vas-y, c'est pas pareil que l'année dernière, le gros. Il ne sera jamais pareil que l'année dernière. Il va avoir quelques subtilités. C'est ça que c'est magique. Mais toujours, c'est de bon quand même. Ça reste bon.
Et quoi, Cacao connaît une période d'activité assez intense avec l'imminence de Pâques, évidemment, et les chocolats qui vont avec. Tous les épisodes de ce feuilleton sont à retrouver en podcast sur notre site internet.
Le cheval.
L'autre radio.
Nouvelle nouvelle semaine, vous le savez, donc nouveau feuilleton consacré au spectacle proposé à Château-Gontier la semaine dernière. Pas pour le grand public bien sûr, mais pour les collégiens. Trois comédiennes de la compagnie du Kairos ont joué devant eux la pièce « J'ai trop d'amis ». Avant la représentation prévue au collège Paul-Émile Victor, Suzanne, Charlotte et Marion, les trois comédiennes, se sont confiées à notre micro et on commence par l'histoire de ce spectacle.
C'est la suite d'un spectacle qui s'appelle « J'ai trop peur » et qui continue aussi à tourner, qui est pour des adolescents, des collégiens, des gens qui rentrent en sixième. Voilà. Alors en quelques mots, c'est un jeune garçon qui a très très peur de rentrer au collège. Donc dans « J'ai trop peur », le premier spectacle, on le suit toutes ses vacances, où il les rate complètement parce qu'il est tellement flippé qu'il se fait tout un monde de ce que va être sa nouvelle vie. Et dans le second volet, donc « J'ai trop d'amis » qu'on joue en ce moment à Château-Gontier, c'est ce même garçon qui passe ses premiers mois au collège et qui rencontre sa nouvelle classe, des nouveaux copains, des nouveaux problèmes, et voilà.
Un monsieur qui a l'air important et qui doit être le directeur dit nos noms dans un micro qui ne marche pas très bien. J'ai l'impression que le temps se ralentit. J'entends mon cœur battre très fort dans ma poitrine.
Je crois qu'au départ, c'était juste une commande d'un théâtre pour David, parce qu'il avait auparavant écrit déjà un spectacle pour la jeunesse, mais pas vraiment pour cette tranche d'âge-là. Et je crois que le passage au collège est un sujet quand même important pour des jeunes gens. C'est vraiment comme un passage initiatique, en fait. Donc voilà, il a voulu commencer par écrire pour cette peur, en fait. Je crois qu'il a pris la peur de ce passage-là et puis il a continué avec le deuxième spectacle à dérouler l'histoire de ce petit garçon.
Il trouve que cette tranche d'âge au théâtre, il n'y avait pas grand-chose aussi rien que pour eux. Donc quand on lui a proposé un jeune public, il n'avait pas envie de faire pour les tout-petits et il avait envie de faire pour cette préadolescence quelque chose qui parlait vraiment de leur timing à eux. Donc l'entrée en sixième, les questions que ça pose sur les rencontres qu'on va faire, les profs, grandir et tout ça. Et puis, effectivement, là, dans « J'ai trop d'amis », être en sixième, donc les nouveaux copains, la nouvelle classe, la popularité et des nouvelles problématiques, mais qui en fait sont des problématiques complètement ciblées en fait sur cet âge-là. Et lui, je crois qu'il a pris énormément de plaisir à se pencher sur cet âge-là précisément avec le langage que ça peut amener, avec les corps que ça peut amener et l'humour que ça a aussi d'être entre des enfants et des jeunes adolescents et d'être encore complètement en quête de ce qu'on va devenir en plus grand, quoi. On se pose des questions qu'on se posait pas forcément avant. C'est le début d'un âge hyper philosophique, quoi.
Comment je vais faire avec Marguerite, moi ? J'y connais rien. J'ai même pas compris si on était ensemble ou pas.
La suite demain avec d'autres extraits de spectacles à découvrir et on va parler demain du réalisme des personnages. I walk the floors at night and try to know if we can work it out. I still don't know. Are you the kind of impressions recueillies juste après le spectacle d'Élise, Rowem et Clémence, élèves en 5e, suivies des techniques de jeu des comédiennes Suzanne, Charlotte et Marion.
Ça reflète bien du coup ce qu'on a en 6e. Quand je suis entrée en 6e, j'avais pas mes amis dans la classe. Puis du coup, j'ai réussi à m'en faire. Au tout début, on était un groupe d'amis en CM2, sauf que quand on est en 6e, il s'est détaché.
Ça m'a fait penser quand je suis arrivée au collège le premier jour, ils disaient des prénoms. Et je disais, j'espère d'être avec mes copains. Au début, ils ont dit que j'étais pas avec eux. Et après, ils ont cité des noms et j'étais avec eux, donc j'étais super heureux.
Non, je suis pas spécialement un Mathéo. Je suis pas spécialement populaire. Je suis juste normale.
Par exemple, mes parents, enfin, ils voulaient pas que j'aie un téléphone tout de suite parce que ils pensaient que ça servait pas vraiment et tout. Mais vu que je grandissais aussi, j'aurais sorti l'excuse que c'est s'il y avait un problème, je les appellerais et ça marche toujours. Je trouvais que c'était réaliste parce que je pense que les parents, ils ont des réactions comme ça. Enfin, ils veulent pas voir leurs enfants grandir trop vite non plus. Avec les marques de vêtements. Parce que tout le monde a envie d'être à la mode, de se ressembler. Oh, j'adore tes baskets, des choses comme ça.
On dirait que c'est des vrais enfants.
Ils ont bien voulu imiter tous les personnages, même la petite sœur, du coup, de l'hélium. C'était quand même bien pensé.
Emma, ça voulait être un aurore, mais après, on en aura deux autres. Il disait, s'il te plaît, d'être un aurore avec moi.
Et donc, toi,
ça dit oui. On commence par regarder, en fait. Comment ils se tiennent, comment ils parlent. Chaque génération et chaque âge a ses codes. Donc il y avait ça, mais il y a ça déjà dans le texte, en fait. C'est déjà induit dans le langage du texte et dans les rapports qui sont souvent des rapports de dominant à dominé, en fait. Hein. En tout cas, de hiérarchie, d'autorité. Et après, c'est aussi la contagion dans le travail des unes avec les autres. Tout le monde joue tous les rôles. On se remplace en fait sans arrêt. On tire au sort avant de jouer pour savoir qui va jouer quel rôle. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en commun sur le travail en fait dans cette pièce.
C'est plutôt assez joyeux aussi justement de pouvoir tourner parce que y a cette figure du petit garçon qui entre en sixième, qui passe ses vacances d'été et tout ça. Il y a sa petite sœur qui a 2 ans et demi. Après, il y a les personnages qui gravitent autour. Et du coup, en fait, de faire les trois, j'ai l'impression que ça les enrichit les uns les autres, quoi. On a la possibilité de, du coup, plus s'amuser avec chaque âge.
Ça amène quelque chose de beaucoup plus ludique que d'avoir un seul parcours et de le jouer énormément. Donc, c'est très chouette de pouvoir changer et se surprendre nous-mêmes, piquer des choses aux autres quand on les voit faire un nouveau truc et nous enrichir les unes les autres.
Ce spectacle, joué 4 fois en Mayenne la semaine dernière, quelle vie a-t-il connu sur scène avec les restrictions sanitaires que vous connaissez ? Réponse lors de l'épisode de demain. La compagnie de théâtre Kairos, qui était présente jeudi et vendredi dernier à Château-Gontier. 3 comédiennes pour un spectacle destiné aux élèves du collège Paul-Émile Victor, entre autres. J'ai trop d'amis, c'était le nom donc de leur spectacle. Et malgré un contexte très compliqué cette année, ce spectacle a déjà été joué auprès d'autres classes et les comédiennes Suzanne, Charlotte et Marion ont eu quelques retours.
Alors il y a une chanson dans le spectacle et qui est quand même un peu le climax du spectacle. Et ils nous posent pas mal de questions sur cette chanson, si ils peuvent la réécouter, etc. Donc ça, c'est plutôt rigolo.
On a eu joué pour c'était des CM1, CM2. Et là aussi, les questions, elles sont beaucoup autour de la peur quand même. Parce que c'est la projection de « Ah bon, est-ce que c'est comme ça la sixième ?» C'est d'amorcer et de désamorcer. Ça permet en tout cas d'en parler et eux de s'exprimer par rapport à ça, de poser plein de questions. Et donc, comme le spectacle repose aussi là-dessus, enfin, c'est ces notions-là justement de passage, de trouille, enfin voilà. Petite chose qui a été chouette, c'est qu'à Albi, donc, les enfants, et on ne le savait pas, avaient déjà vu la retransmission. Ils ont fait une captation vidéo, enfin un live en vidéo en direct au théâtre de la ville et les enfants l'avaient vu et nous on ne savait pas. Et à la fin il y en a un qui nous a dit et on leur a demandé s'ils avaient préféré en vidéo ou dans la salle. Il n'y a pas eu un quart de tiers de seconde de politesse, ils ont tous dit en vrai. Donc c'est super chouette parce que ça nous rassure aussi de savoir que quand même, on est au diapason sur le fait que le public a autant envie que nous de retrouver les salles de spectacle.
Dans l'histoire de ce spectacle, déjà, il y a pile poil un an, ça devait être la première en gros, là dans quelques jours. Donc le spectacle a répété pour être créé à un moment où tout s'est arrêté. Il y a eu ce temps du confinement et tout ça. On a eu la chance de pouvoir le jouer cet été, de le créer vraiment cet été. Et puis derrière, il y a eu quasiment aucune date avant le deuxième confinement et depuis où les théâtres n'ont pas réouvert. Donc bien sûr, pour nous, c'est une catastrophe. Il y a quelque chose qui est blessant là-dedans aussi. Il y a une vraie blessure de ne pas pouvoir exercer son métier de façon à être reconnu pour ça. En fait, de ne pas être autorisé à faire ce qui fait qu'on gagne notre vie, c'est quand même un truc d'une vexation immense et puis qui nous met aussi dans des situations de précarité et tout ça. Mais du coup, de retrouver un public, pour moi, c'était la première fois depuis octobre. Et j'étais à la fois terrifiée et ravie, même si avec le masque, il y a quand même aussi encore cette distance de ne pas voir les visages. Là, il y avait quand même un groupe qui faisait un ensemble de pensées réunies comme devant un même objet, quoi. Donc ça fait plaisir et c'est ce qui fait la particularité de ce métier-là et qui fait que c'est un métier unique. C'est sûr que on peut pas nous dire « Oh, mais c'est bon, vous pouvez les faire en vidéo, ça va ». Ça n'a rien à voir.
Et on profitera justement de l'épisode de demain pour revenir sur cette année si particulière, quasiment sans spectacle pour le grand public, pour voir comment les comédiennes, elles, l'ont vécu de leur côté. Après toute une année où elles n'ont pas pu jouer et répéter comme d'habitude, les comédiennes Suzanne, Charlotte et Marion ont un seul mot à la bouche quand on évoque le retour sur scène devant les scolaires.
Plaisir, forcément, de sentir les gens, de leur parler 5 minutes après. C'est une surprise, quoi. Et puis là, on en manque terriblement de surprises dans la vie. Hein. Je parle pas que de nous, mais de rencontres, de surprises, d'inattendus. Enfin, on est complètement cloîtrés dans un temps qu'on nous impose. Donc, c'est juste une petite soupape très jouissive, ouais, c'est sûr.
C'est vrai que le fait de pointer les théâtres ou les musées du doigt en disant que ce sont des endroits dangereux, alors que nous, à l'intérieur, ça n'est que tendresse, en fait, hein, le rapport avec le public, dans la mesure où toutes les conditions sanitaires sont absolument respectable, ou en tout cas c'est possible de les mettre en place. C'est ça qui est aussi très blessant, c'est pourquoi est-ce que, alors que c'est possible, alors que c'est moins dangereux de venir au théâtre que d'aller faire ses courses, on prive les gens dont c'est le métier et les gens dont c'est les loisirs de pouvoir partager des moments qui sont tout sauf dangereux en fait, hein, pour le cœur aussi, enfin voilà. C'est long, puis il y a des moments où on fait avec, il y a des moments où bah, c'est la déprime un peu.
Moi, j'ai réussi aussi à faire quelques dates, alors très peu sur le nombre prévu. Il y a aussi des créations qui se sont faites et qui se font encore, mais sans jouer. Donc, c'est complètement fou parce que des spectacles comme ça qui naissent, mais qui restent dans les placards. Donc, c'est très bizarre. Et puis, ce qui est très difficile aussi, c'est d'être au mois par mois ou à la semaine. Parfois, on dit « Ah bah ça y est, c'est possible. Ah bah non, c'est annulé. » On est tout le temps dans un va-et-vient. Et moi, j'aurais préféré, par exemple, me dire « Bah cette année, c'est mort. J'arrête pour le moment de jouer et je pense à autre chose. » Alors que là, on est vraiment sur un fil, quoi. On ne sait pas si on va tomber ou si on va rester.
Il y a zéro projection possible. Ouais. Ça c'est un sacré truc. Même les projets qui sont censés se faire, des répétitions qui doivent commencer, même Avignon cet été, en fait, on se questionne énormément sur
Ok, nous on pensait que ça serait possible, on pensait aussi que ça serait possible de manière générale dans notre vie, l'année dernière on pensait que ça serait possible, donc cette surprise-là, combien de temps elle va durer, combien de temps elle va traîner, est-ce qu'on va continuer à montrer du doigt les théâtres comme des lieux, des nids à microbes entre guillemets, c'est quand même assez fou quoi, que ce soit ça ou les restaurants, moi je le dis aussi, hein, mais on a besoin de vivre quoi, et la vie c'est pas que aller au travail et faire des courses, enfin, c'est certain. Moi, j'avais eu la chance de tourner un petit peu aussi pour du cinéma, mais pareil, il y avait beaucoup moins de comédiens que ce qui était prévu. On était testés quasiment tous les jours, on prenait notre température, on va, comme si il était impossible aussi qu'on soit responsable, parce que je pense qu'on est des gens qui n'avons pas envie non plus d'être malade, de transférer le virus. On se rend bien compte de l'état des hôpitaux. On ne dit pas « mais réouvrez à tout prix », c'est pas vrai, c'est pas à tout prix. Dans l'ensemble, on a besoin de faire corps un petit peu, et je crois que le théâtre est aussi là pour faire corps parfois.
Et demain, à l'occasion du 5e et dernier épisode de cette série, on leur demandera comment elles voient les prochains mois et l'avenir de la profession. De vue sur la situation que connaît le secteur culturel en ce moment et plus particulièrement l'occupation des théâtres.
Occuper un théâtre vide, c'est très important parce que c'est pas juste l'occuper pour dire on fait grève, on arrête tout, parce qu'on est déjà à l'arrêt en fait. Donc c'est à un moment donné manifester l'idée qu'on existe et que c'est pas que pour nous. J'ai l'impression que le mouvement il prend aussi le pas sur tous les emplois précaires qui aujourd'hui avec le changement de l'assurance chômage sont encore plus précaires qu'avant, et c'est ce qui est dit et revendiqué je crois par les occupations. C'est des occupations qui sont pas des occupations pirates finalement pour la plupart, enfin je crois que c'est juste montrer qu'on existe et se retrouver et faire corps, faire chair ensemble, quoi.
C'est aussi le rôle de la culture de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord, de pouvoir lancer des débats, des réflexions. Je pense que c'est pas trop tôt même. Enfin, on a été plutôt sage jusqu'à présent. Je pense que c'est la moindre des choses de convoquer le ministère pour réfléchir ensemble à comment réouvrir, parce que je pense que c'est plus logique maintenant de rester comme ça, de rester fermé, de pas avoir de date, de pas avoir de vision de ce que va être les prochains mois, ce que vont être les prochains mois, ouais.
Là, il va falloir aussi qu'on trouve le moyen d'être ensemble. Au début du tout premier confinement, on a eu cette sensation là de, j'ai un assez bon souvenir de voir les gens qui se mettaient à chanter à leur fenêtre ou applaudir ou je dis peut-être n'importe quoi, mais je me suis dit OK. On est tous dans la merde, on va trouver des solutions ensemble. Et puis derrière, ça a fait pom, 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 et on s'est un peu cassé les dents sur le truc, et il y a eu cette latence-là. Et j'espère, quelque part, que si ça reprend, si on se réveille maintenant, on arrivera à le faire ensemble le plus possible.
Même quand on n'a pas l'habitude d'y aller, eh ben, le fait de savoir que ça existe, c'est déjà quelque chose, en fait. Il y a des villes comme ça, on m'avait dit ça, que quelqu'un qui n'osait pas rentrer dans un théâtre, qui ne se sentait pas à l'aise, que c'était trop grand, trop chic. Enfin, une vision un peu folle d'un théâtre, parce que c'est vrai que ce n'est plus comme ça du tout aujourd'hui, mais en tout cas, quelqu'un qui n'osait pas et qui m'a dit, mais je suis contente de savoir qu'il est là. Et je suis contente de passer tous les jours devant. Donc parfois, ça a aussi seulement cette valeur-là, c'est-à-dire symbolique et de rassemblement. C'est-à-dire que, voilà, on parle du cultuel, mais il y a des gens qui sont croyants qui ne vont pas à l'église, mais ils sont contents de savoir qu'il y en a une.
C'est aussi l'idée de vivre en dehors du travail. Enfin, je vois même les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, enfin, je pense à des personnes de ma famille, par exemple,
qui travaillent la journée et puis qui, là, doivent rentrer chez elles à 18h. Et oui, bon, bah, au début, on regarde des trucs sur les plateformes. Mais au bout d'un moment, de ne pas pouvoir sortir. Donc, je ne sais pas. Moi, c'est la sensation que j'ai que... Il va falloir qu'il se passe quelque chose après 18h aussi, quoi, à un moment ou un autre. Oh, I like to hope, I like to think there will be one. Oh, that one day we will have little ones and fun. Oh, I like to hope, I like to be with you. And I love you, and that's true.
Quand on écoute l'autre radio, on est sûr qu'on va faire beau.
Of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum. Shades of delight, cobble you, rich as the night. Afro.
Commence donc ce feuilleton, cette série consacrée au projet mené par les élèves du collège Jean Rostand à Château-Gontier. Et avant de commencer cette semaine de cours à distance, certains élèves de 5e ont mené un projet de danse africaine et de captation vidéo la semaine dernière dans le cadre du projet Collège au cinéma avec l'association Atmosphère 53, pendant lequel les élèves vont normalement voir 3 films dans les salles obscures. Mais Covid oblige, le programme s'est adapté, comme l'expliquent les collégiens.
Bah, on a appris à faire des vidéos et on a refait un peu les vidéos du garçon Tam Tam avec des ombres chinoises. Lundi, on a tous dansé avec le Carole. Mardi, on a allé au CDI, les 10 personnes du groupe vidéo.
Bah, on a fait un film avec des dessins qu'on a fait et on les a animés. Hier, on a commencé à préparer les caméras et tout, savoir comment on fait. Et moi et Chaz, et ben on faisait les lumières.
J'ai peut-être appris pour les caméras.
Oui, à la mettre, la placer la batterie, tourner la caméra en 360 degrés.
L'idée était bien de rencontrer ces artistes, de découvrir tout le travail derrière un spectacle, mais aussi un court-métrage. Et ce choix de la danse africaine ne doit rien au hasard, comme le précise Estelle Chenet, en charge des dispositifs scolaires chez Atmosphère 53.
Le spectacle est inspiré du conte Le garçon Tam Tam de Michel Oslo, donc le grand réalisateur, et qui est aussi très fan de l'Afrique comme nous, Atmosphère. Et donc ils avaient quand même étudié le texte et savaient un petit peu du coup qu'ils feraient quelque chose autour de ça. Mais en revanche, oui, du coup tout le côté artistique, à savoir donc bien sûr le spectacle, mais aussi quels inserts vidéo apporter au spectacle, comment mettre les lumières. Et les placements des caméras, oui, combien de caméras pour filmer un spectacle, tout ça, ils ont tout appris cette semaine. Ouais. L'apothéose et l'objectif de la semaine, c'était ce spectacle, mais aussi la captation du spectacle. L'idée, c'est franchement qu'ils se forment, en fait, qu'ils apprennent des choses, qu'ils découvrent des métiers aussi, parce que là, ils ont quand même été en contact d'artistes et de professionnels du milieu du spectacle d'une manière générale. Et ensuite, du coup, cette vidéo, c'est aussi une vidéo souvenir. C'est bien sûr la possibilité de montrer aux familles. Voilà. C'est assez formidable. C'est vrai qu'au début, personne ne se connaît. Même nous, avec nous, les adultes, et même les professeurs, les liens se tissent. Là où les professeurs sont aussi très, très contents, c'est que les élèves se révèlent, en fait. Il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, oui, qu'ils découvrent et plein de belles choses, quoi. Et puis, les... les élèves, on voit qu'ils sont très contents, très investis. Ils n'ont pas lâché de la semaine, ce qui est même assez rare en fin de compte. Des fois, ils fatiguent un peu. Là, nous, on est très, très contents. Et oui, il y a un élève qui vient de me dire en régie que c'était la meilleure semaine de l'année et qu'il était très content d'avoir fini l'année en apothéose. Alors, je dis fini parce que donc, du coup, ce soir, c'est confinement, quoi. Du coup, ils sont accompagnés pour la danse par l'artiste Marie Shelley, qui, donc je dis artiste, là, on l'appelait pour de la danse, mais elle est artiste parce qu'elle chante aussi. Elle a un autre projet de chant. Et sinon, donc ça, c'est pour la partie danse. Elle est accompagnée d'un musicien, Issouf, qui est là, en fait, qui a été là tous les jours pour mettre l'ambiance et vraiment donner un peu de couleur à tout ça. Et sinon, pour la partie vidéo, c'est Arnaud Ray, technicien audiovisuel mayennais, qui a accompagné les élèves et donc leur a appris les placements de caméra, les échelles de plan, la régie, tout, les choses comme ça, quoi. Les câbles, parce qu'on a aussi tiré beaucoup de câbles dans la salle. On a aussi monté un écran et même les élèves nous ont aidés à monter l'écran aussi. Enfin, c'était vraiment complet.
Une semaine dense, vous l'avez compris, accompagnée par des professionnels passionnés que vous entendrez justement dans l'épisode de demain.
Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate word, shade of delight, cocoa you, rich as the night, afro, afro blue.
Une semaine intense, mais sous le signe du partage, selon le réalisateur Arnaud Ray, qui a accompagné les collégiens toute cette semaine.
Déjà des cours théoriques, en effet, autour de la prise de vue sur les valeurs, les axes de plan, et également la technique en elle-même d'apprendre, en effet, d'aller dans le menu de la caméra, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, de travailler, en effet, sur des aspects techniques liés au diaphragme, par exemple, à la balance des blancs, ils n'en avaient évidemment pas entendu parler avant, à la focale, qu'est-ce qu'une focale, comment aller chercher un plan serré, un plan large, et en définitive, là, passer de la compréhension d'un travail à plusieurs caméras à un montage finalisé de spectacle. Il y a un des jeunes, j'ai l'impression, qui a envie, là, depuis cette semaine maintenant, d'aller vers les techniques liées au son et à l'image. Donc c'est génial, ça révèle aussi peut-être des talents cachés. On a abordé plein d'aspects là, en l'espace de simplement 3 jours, parce que le premier jour, on a travaillé vraiment sur tout ce qui est insert image, image-son pendant le spectacle. Donc on a travaillé sur l'animation graphique. Ils ont fait des dessins, ils ont pris des photos de ces dessins. On a fait des incrustations d'images, on a fait des animations et on a travaillé sur l'aspect lumière. Donc ils ont travaillé avec une console lumière, ils ont travaillé sur la console de son, ils ont projeté pendant le spectacle les inserts images qu'ils avaient travaillé le mercredi. Donc c'est hyper complet comme programme.
Alors bonjour, je suis Marie Shelley, on m'appelle aussi Shelley Alone en musique. Et Marie Shelley, c'est la chorégraphe, la danseuse. Ce sont des ateliers de création, donc c'est beaucoup d'improvisation dans le cadre. Madame de la Tour du collège Rostand a travaillé avec les élèves sur un thème. Donc j'ai regardé quand même le conte, c'était le garçon Tam Tam. Et puis après, donc j'ai eu des petites idées, et puis après je les ai complétées avec les élèves, avec les capacités, avec tout ce qu'on pouvait dire aussi sur ce conte. En musique en tout cas, parce que c'est le garçon Tam Tam, et en danse, parce que la musique et la danse c'est lié. Alors le premier atelier c'était un peu timide, et c'est les cinquièmes, on n'est pas toujours bien dans sa peau. Et puis le deuxième jour, c'était magnifique parce qu'il y a eu un temps de respiration aussi. Et puis j'ai vu les bras se lever comme moi, en même temps que moi et tout. Et j'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé ça beau. Et puis après, donc, ça m'a permis de continuer et puis de les emmener toujours un petit peu plus loin en construisant le petit spectacle. Ils ont assuré parce que c'est pas facile de se placer sur une scène, de sortir, de rentrer. J'ai vu des libérations d'esprit, de corps, comme ce que la danse peut donner en fait.
Ce petit film restera un beau souvenir pour cette semaine pour les collégiens. L'artiste Marie Shelley devrait être aussi présente lors du prochain Festival des Reflets Africains en octobre pour une conférence dansée sur la danse africaine, évidemment.
Shades of the light, oh, go you, witches the night. Afro.
Et après la vidéo et la danse africaine, place à la musique. Les élèves de 3e en classe orchestre ont enregistré leur propre CD il y a une dizaine de jours, avec 10 titres sur lesquels ils ont travaillé toute une semaine, en se réécoutant encore et en répétant comme des pros. Un projet qui a vu le jour cette année en l'absence de concerts de fin d'année.
Karine Segui, donc professeure d'éducation musicale au Collège Jean Rostand et professeure d'orchestre aussi pour le projet Classe Orchestre. Alors l'origine, c'est en fait, ils terminent leur quatrième année de pratique au sein du collège. Donc l'idée était de leur faire un souvenir et puis ensuite une nouvelle expérience parce que enregistrer, c'est essayer d'aller plus loin vers la qualité, vers l'exigence parce que après, il faut présenter ce produit qui ne sera plus changeable à un public. C'était aussi une opportunité, étant donné qu'actuellement, on n'a plus trop l'occasion de se produire en public et que donc les parents, les amis pourront aussi les écouter par ce biais-là. Pendant ces 4 jours, on a été effectivement avec le fait de s'écouter, on enregistre, on se réécoute plusieurs fois, avec aussi une oreille extérieure, c'est-à-dire Thomas Ricou, l'ingénieur du son. Ce qui fait qu'effectivement, on arrive à percevoir des petites choses, des petites dynamiques qu'on pourrait rajouter, des mélodies à mettre un peu plus en valeur que grâce à l'enregistrement, ou une intention aussi, une partie plus dansante qu'on a beaucoup travaillé et qu'on a réussi effectivement, en faisant répéter les élèves plusieurs fois, à ce qu'ils arrivent à le mettre en place et puis à aller jusque-là, jusqu'à s'améliorer dans l'interprétation. Donc avec cette exigence, oui. Ben, y a 28 micros qui sont sur scène pour donc les 20 élèves de la classe orchestre. Des micros qui captent tout l'ensemble, mais aussi des micros sur chaque instrument, ce qui va permettre de faire après le mixage pour mettre en valeur plus ou moins certains instruments. Là, cet après-midi, on finalise en faisant des petits rajouts pour amplifier les voix, le travail des voix sur 2 chansons. Et puis, des petits rajouts qu'on vient d'entendre et qu'on vient d'imaginer, de rajouter tel instrument sur une chanson. Donc voilà, c'est des petits rajouts. Donc une autre façon d'enregistrer, c'est-à-dire plus en individuel comme dans un studio, alors que l'on a fait tout un travail plutôt global d'orchestre. Le gros du répertoire, c'est depuis l'année dernière et puis cette année qu'on en a approfondi certains. Il y en a une, la valse pour Jean, qu'effectivement ils affectionnent, qu'ils aiment jouer depuis la 6e, donc on a remis effectivement dans le programme. Mais effectivement, c'est des nouveaux morceaux qui sont au fur et à mesure, hein, quand on débute, les morceaux sont assez simples techniquement parce qu'on apprend à souffler, on apprend à jouer les différentes notes et puis au fur et à mesure, effectivement, comme... C'est un groupe qui a bien progressé, qui a bien travaillé régulièrement. Effectivement, on peut aller sur des morceaux beaucoup plus techniques, qui demandent beaucoup d'énergie aussi. Parce qu'il faut aussi donner, c'est donc comme le Nirvana par exemple, qui est quand même un morceau assez difficile et qu'ils ont bien réussi à interpréter. Ouais.
Et demain, nous entendrons justement les musiciens en herbe, fatigués mais ravis après toute cette semaine d'enregistrement.
Delicate words, shades of the light.
whispering tree, echo the sights, passionate leaves, tender replies, shades of delight, conquer you, rich as the night, Afro, Afro.
Quatrième et dernier épisode de notre feuilleton consacré au projet mené au sein du collège Jean Rostand à Château-Gontier, avec, et c'est une nouveauté cette année, l'enregistrement d'un CD par les élèves de 3e de la classe orchestre qui se sont pliés aux exigences d'un album en écoutant, en réécoutant et en répétant au Rex jusqu'à satisfaction, ce qui a un peu fatigué les jeunes musiciens qui sortent tout de même ravis de cette expérience, tout comme leur professeur de musique Karine Segui.
Depuis lundi, on enregistre les sons qu'on a fait des 4 dernières années en classe orchestre. Plusieurs morceaux comme Game of Thrones, Pirates des Caraïbes, du Nirvana. On a un cours de 1 heure chaque semaine par instrument, avec un professeur spécial. Et on a 1 heure et demie en général, ou 1 heure de classe orchestre par semaine, avec tout l'orchestre pour répéter les musiques.
On s'est enregistré dans un micro seul, du coup, pour le but de se rajouter après sur la bande-son, mais on est concentré avec un casque et on a enregistré en même temps. Ça change, en fait, on a plus le son dans le casque, enfin, dans les oreilles, mais ça va. Je trouverais ça plus difficile, parce qu'on est seul, on n'est pas accompagné avec tout l'orchestre autour, mais on s'y habitue, en fait. Bah, on apprend qu'il faut bien être précis, parce que comme on est enregistré, il faut bien faire les bonnes notes, parce que tout s'entend. Et qu'il faut bien jouer ensemble et bien coordonner.
C'était bien, c'était une nouvelle expérience. Et puis c'était fatigant. Je pensais que ça allait être moins fatigant que ça quand même. De rejouer tous les morceaux, puis au final, à un moment, ça commence à faire mal aux lèvres et tout. Et du coup, ça devient dur à jouer. Mais oui, je suis contente de ce qu'on a fait comme travail.
Je préférais la batterie que les autres instruments. Les instruments avant, c'était pas mon truc. Alors la batterie, ça m'a plus attiré. Nirvana est très bien, rock c'est bien. C'est vrai qu'il y a plus de concentration et c'est vrai que c'est facile.
Une grande évolution grâce à leur motivation. Ils s'entendent bien déjà, donc ils viennent depuis très longtemps entre deux. Dans les interclasses aussi, répéter, jouer ensemble. Donc il y a toute une symbiose aussi entre eux, une complicité entre eux qui fait qu'il y a une écoute déjà qu'ils ont et qui est importante aussi, une complicité au sein de l'orchestre pour que ça fonctionne bien. Garder cette ambiance sympathique, effectivement, où on partage, la musique c'est un partage et c'est vrai que c'est très agréable, très plaisant. Pour moi aussi, oui, c'était une première expérience de faire un CD. Donc, je savais qu'il fallait répéter, etc. Mais c'est vrai que c'est le soir, on est content de se poser. Et on est effectivement bien fatigué parce que c'est beaucoup de concentration, d'écoute. On peut pas relâcher l'attention quelques secondes, sinon, hop, on a perdu quelque chose. Mais c'est un super résultat, une récompense qui est super. Donc là, il reste le travail de la pochette du CD à faire. Donc les élèves, on a commencé à y réfléchir. Donc ça, c'est de faire la pochette, faire le petit livret, avec tous les éléments à mettre. Et puis d'ici mi-avril maximum, pour envoyer après tout ça, avec le mixage sera fait aussi. Donc envoyer tout ça au pressage du CD. Pour qu'ils nous reviennent, on s'est fixé à début juin pour pouvoir l'avoir avant la fin de l'année scolaire, en fait.
Et le CD donc devrait être mis en vente au mois de juin pour la somme de 8 euros.
Endless lovely fantasy, assumes a reality, until it's not a dream, to all you and me, shades of delight, go, go you, reaches the night.
C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux agités du mois.